Alors on peut switcher sur l'autre slide, effectivement. Merci. Récemment, j'étais au centre-ville de Strasbourg pour aller chercher l'abonnement de ticket de tram pour mon fils pour l'année. Et ça ne pouvait pas se faire par Internet, alors j'ai dû aller vers l'agence. Je n'ai jamais allé là-bas, mais je suis allé. Et puis, bon, je vois la porte où on doit rentrer. Il n'y a personne directement devant. Je regarde un peu dedans et je trouve ça un peu bizarre parce que juste à côté, il y a une énorme file. Et je vois des bandeaux et tout, et je me dis, mais peut-être que ces personnes-là veulent faire la même chose. Ça serait bête de rentrer comme ça direct sans avoir fait la queue, n'est-ce pas? Alors, je demande à quelqu'un dans la queue si elle était là pour ça aussi. Et puis, oui, tout à fait, mais bon, il faut attendre, quoi. Ah ouais, ok. Alors, je me mets dans la file, et heureusement que ça avance un tout petit peu. Je ne vous dis pas combien de temps j'ai attendu, mais ce n'est pas grave. Et à un moment donné, j'étais pratiquement en train de pouvoir rentrer, quand à la moitié de la file, qui arrivait encore par derrière, après moi, hein, et il y a des responsables là-bas qui allaient vers les gens et leur a dit « Excusez-moi, mais à partir de là, ça ne sera plus la peine d'attendre pour aujourd'hui, vous revenez demain ». Parce que, voilà, les heures de bureau et tout ça, ça va être fini. Oh ! Il fallait revenir le lendemain après avoir attendu, je sais pas combien de temps. Moi, je suis rentré. J'ai pu faire ce qu'il fallait. Mais je me suis dit, parfois on attend pour rien. Et parfois, on peut attendre et être comblé de son besoin. J'aimerais vous lire un texte de l'évangile de Jean qui parle aussi d'une attente. Vous allez me dire, mais pourquoi il sort ce texte-là lors d'un baptême? Vous allez voir, on va pouvoir faire des parallèles assez étonnantes. Mais c'est surtout une histoire de réponse à l'attente que nous allons voir dans Jean 5, les versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui a été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard là. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, etc. On va s'arrêter là pour le texte qui est assez étonnant et qui implique des choses où il faut croire pour saisir. Alors, nos 4 baptisés ne sont peut-être pas paralysés, mais Jésus a aussi voulu les rencontrer. Et comment? Il est tellement rentré dans leur vie qu'aujourd'hui, il voulait le raconter à tout le monde. Et c'est magnifique. avec ma petite méditation, j'aimerais vous inviter à venir au bord de la piscine avec Jésus. Si vous êtes encore au bord de l'eau, et donc en train d'attendre, c'est peut-être le moment de vous poser quelques questions par rapport à ce Jésus. Et si vous êtes déjà en train de marcher avec lui, cela peut être l'occasion de vous demander ce que Jésus dirait aujourd'hui quand il vous rencontrerait à nouveau. Alors justement, ce Jésus, c'est vraiment le personnage clé de toutes les questions autour du baptême. On l'a déjà entendu. Et c'est pour cela que nous n'arrêtons pas de parler de lui. Il est encore vivant aujourd'hui. Et nous sommes nombreux à pouvoir en parler. Ici, à l'époque de notre récit, Jésus est déjà au plein milieu de son activité. On appelle ça souvent son ministère. Nous avons déjà eu des miracles en Galilée, dans le nord d'Israël, la rencontre avec Nicodème, qui était un grand érudit juif, et la rencontre avec la femme samaritaine, qui était une adultère et qui avait plusieurs maris. Il y a la guérison du fils d'un officier juste avant notre récit, et après la guérison à la piscine qu'on vient de lire, on a toujours plus d'enseignements de la part de Jésus, souvent accompagnés de miracles. Comme par exemple le miracle de la multiplication de la nourriture pour 5000 hommes. Ce récit de guérison dont on vient de lire le récit, nous raconte de quelle manière Jésus a changé la vie de cet homme qui était paralysé depuis 38 ans. Dans l'histoire d'Israël, ça se rapproche des 40 ans que le peuple a erré dans le désert avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Et en même temps, c'est aussi dans la culture juive comme ça la durée de toute une génération. La notion du temps pour Dieu n'est pas la même que pour nous. Mais il n'oublie jamais ceux qui le cherchent et ceux qui attendent. C'est le premier aspect que je retiens de ce récit. Jésus te voit et te comprend. Non seulement Jésus voit le paralysé, mais il va dans sa direction. Il sait qu'il fait partie du décor depuis hyper longtemps et que tout le monde est tellement habitué à le voir qu'on ne fait même plus attention à lui. Mais Jésus, lui, il le voit et il va prendre du temps avec lui. Alors chez nos baptisés, je ne sais même pas exactement depuis quand, alors si maintenant j'ai un petit peu entendu ce matin, depuis quand vous avez attendu ce moment pour aller dans l'eau du baptême. Mais une chose est sûre, Dieu vous a vu et il vient vers vous. Pour vous aborder, pour vous parler et pour vous interpeller. À tel point que vous ne pouviez plus faire autrement que de répondre vous aussi. Jésus pose une question vraiment étonnante à ce paralysé, n'est-ce pas? Il devait vraiment connaître la réponse. Veux-tu être guéri dans cette situation-là? Tout le monde aurait pu répondre à la place du malade. Dans la réponse du malade, nous voyons que sa préoccupation ne se porte même plus vraiment sur la guérison. Est-ce qu'il a cessé d'y croire déjà? Son premier souci, c'est d'être seul. De ne pas avoir d'aide pour pouvoir y croire à nouveau. C'est vraiment parlant. Et aujourd'hui, je constate, nos 4 baptisés ont pu prendre une décision pour le Seigneur parce que d'autres chrétiens leur ont donné goût à une vie de Jésus. Les ont portés, finalement, vers la piscine du baptême, un petit peu. Être enfant de Dieu en Jésus, ça nous responsabilise d'une manière à ce que nous puissions encourager d'autres à pouvoir faire ce choix et à pouvoir avancer vers lui. Mais en posant la question de ce que le malade veut, Jésus met le doigt là où c'est important. Pour lui, ce qu'il voit, ce n'est pas d'abord la maladie physique, mais plutôt la maladie du péché, si on peut le dire comme ça. Et pour cela, l'eau ne suffira pas. Même l'eau du baptême ne suffira pas. Quand mercredi soir, le médecin avait terminé sa petite opération sur mon doigt, là, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et puis je lui ai dit, je suis pasteur. Et après, sur ça, il m'a dit, ah oui, mais dans ce cas-là, tout est OK. Je veux dire, le bandage, ça vous embêtera pas trop, je pense. Moi, de dire que, bah, en effet, ça ira, en général, ça ira très bien. Je peux faire mon travail comme ça, mais ce qui m'embête, c'est dimanche, parce que j'aurai des baptêmes. Ah ouais, pourquoi ? Ah ben parce que, vous savez, chez nous, on rentre dans l'eau, carrément. Et si on fait ça dans la nature, dans un lac ou comme ça, on est encore plus mouillé qu'aujourd'hui. Hein. Et il me dit, ah ouais, d'accord, oui, ça c'est un problème. Mais, en même temps, vous dites que c'est un baptême. Alors, ça doit être de l'eau bénite. Donc tout va bien, ça ne va rien faire pour votre plaie. Ah, je ne vous dis pas, mais c'était l'occasion de lui dire que finalement, cette eau n'était pas une eau particulière. C'était pas ça qui comptait. C'était pas ça qui était magique. Ce qui comptait, c'est la décision personnelle de ces personnes qui rentrent dans la piscine, dans l'eau, pour pouvoir montrer que Dieu les a changés et que c'est lui l'acteur principal. Oui, puisque vous l'avez déjà clairement dit, c'est Jésus lui-même qui sauve. Voilà le deuxième point essentiel de notre récit. Jésus te sauve pour de vrai. Il n'avait pas besoin de porter le paralysé dans l'eau agitée. Il aurait pu faire ce choix-là, hein. Mais il n'a pas fait ça. Jésus l'a guéri directement. D'ailleurs, Jésus n'attend rien du tout de cet homme. Il le libère de son handicap. Il ne lui demande pas d'abord de faire une confession de foi. Ouais, même pas, hein. Il le guérit. Il le guérit de son handicap, de sa dépendance des autres, de son découragement et donc aussi de son désespoir. D'un coup. Peut-être que tu te poses la question si ça peut être réel, tout ça, cette histoire. Ne serait pas ça un petit peu inventé ? Et tu as raison de te poser la question. Parce que si c'est juste une belle histoire et qu'il ne s'agit que d'un mythe, tout l'enseignement de Jésus et même sa personne ne serait rien d'autre qu'une grande tromperie. On est d'accord. Mais, et c'est là l'immense espoir qui devient espérance pour chaque enfant de Dieu, Jésus nous a donné une preuve irréfutable d'avoir vécu, d'avoir enseigné, d'avoir existé, d'exister encore. Après avoir été condamné à mort pour avoir dit oui à la question s'il était le Fils de Dieu, il a été crucifié, rien que pour ça, crucifié, avec des détails qui se sont révélés après d'être la réalisation de nombreuses prophéties des textes de l'Ancien Testament. Mais ce qui est décisif, c'est que ce Jésus est réellement ressuscité des morts. Il est revenu à la vie après avoir été réellement mort. Il a été vu à plein de reprises ensuite par plusieurs centaines de personnes, des personnes qui n'avaient aucun intérêt de dire qu'ils l'avaient vu à nouveau. Mais il était là. Il est ressuscité. La preuve de sa victoire sur la mort nous montre qu'il est aussi capable de nous donner une vie à nous, après notre vie ici-bas, et surtout une vie dans la présence même de ce grand Dieu créateur que nous servons. Mais j'aimerais terminer avec le troisième point à retenir. Jésus te lance. Tout comme il a lancé le se paralysé. Verset 8, « Lève-toi, prends ton brancard et marche !» Pour le verbe « lever », Jésus utilise ici un mot qui veut également dire « ressuscite ». Ressuscite. Je sais que tu étais comme mort, mais là, tu vas voir ce que c'est la vie. La capacité de pouvoir bouger à nouveau est un parallèle pour montrer ce qui se passera un jour quand nous sommes sauvés par Christ et qu'il nous rendra la vie pour l'éternité. Nous pouvons déjà être sauvés aujourd'hui, mais il nous aura à ses côtés. Cette phrase « Prends ton brancard et marche » a valu à Jésus d'être attaqué par certains juifs qui trouvaient qu'il n'aurait pas eu le droit de demander à cet ex-malade de porter son matelas pliable. Parce que, soi-disant, ça représentait un travail interdit pendant le sabbat. Mais c'était clairement juste un essai de détourner l'attention de la puissance de Jésus. Parce que qu'est-ce qui pouvait plus sauter aux yeux dans cette situation que ça, rien d'autre, c'était la marche de cet homme. Jésus a le pouvoir de guérir de cette manière. Nous avons tout intérêt à mettre notre confiance en lui. Et avoir confiance en Jésus, cela veut dire que nous voulons lui ressembler de plus en plus. Sur notre cheminement de vie, il devient notre modèle qui nous inspire et vers qui nous voulons continuellement regarder en toute situation. Ça veut dire effectivement délibérément choisir de ne plus pécher, c'est-à-dire de ne plus accepter de nous-mêmes, d'agir par nous-mêmes ou de parler contrairement à la volonté de Dieu. Alors, on ne va pas réussir à 100%, on l'a déjà dit aussi, mais on va le vouloir. On va vouloir vivre avec l'Esprit qui nous donne la capacité de lui ressembler de plus en plus. Pour le connaître, nous voulons être plongés dans la Bible le plus possible et avoir régulièrement des temps de prière et de rester connectés les uns aux autres dans l'Église. Son Esprit veut nous équiper pour faire la volonté de Dieu. Et puis, Jésus nous lance pour que d'autres puissent rencontrer Jésus, comme l'a fait ce paralysé. Dès qu'il savait qu'il avait été guéri, par qui il avait été guéri, il est allé l'annoncer. C'était évident pour lui. Et on peut se dire, oui, mais c'est, effectivement, c'est logique. Quand quelqu'un nous marque de cette manière-là, après 38 ans d'immobilité, de pouvoir marcher à nouveau, bah forcément, il avait besoin de dire qui c'était. Et nous aussi, si nous savons qui c'était qui nous a sauvés de la mort, nous avons tout intérêt à pouvoir le dire. Oui, l'Évangile s'est répandu parce que son message était tellement bouleversant pour tant de gens que personne ne pouvait l'arrêter. Et aujourd'hui, chers Anaïs, Audrey, Esther et Tobias, vous êtes les plus récents exemples de disciples modernes de Jésus. Depuis 2000 ans, imaginez-vous ça, depuis 2000 ans, cela ne s'arrête plus parce que Dieu veille et parce qu'il utilise ses enfants qui se lèvent et qui marchent. Si je faisais un sondage là-dedans, dans cette salle, je sais qu'il y en a plein qui ont vécu ce que les quatre ont vécu aujourd'hui dans le passé. Un détail dans notre récit est aussi encore intéressant. C'est que cet homme qui est guéri, il retourne à la synagogue, à l'endroit où les Juifs se rassemblaient pour louer Dieu et pour lire les Écritures justement. Et c'est là aussi qu'il va enfin être de nouveau avec d'autres personnes. Lui qui était certainement souvent seul, il peut dorénavant partager la vie d'une manière active avec les croyants. Cette conséquence de vouloir intégrer la communauté peut trouver son parallèle dans la vie de l'Église du nouveau baptisé. Et la notion de ce partage de vie est encore plus importante, je pense, dans les églises que dans les synagogues. Même si c'est déjà pas mal dans les synagogues. Mais dans les églises, on veut encore vivre quelque chose de plus fort encore. J'aimerais vous encourager, vous les quatre, mais aussi tous ceux qui sont là aujourd'hui. Profitez de la liberté que vous avez de vous investir pour le Seigneur et pour les amis de l'Église, là où le Seigneur vous a placé. Vivez pleinement le miracle de l'Église. C'est quelque chose de merveilleux. On l'a entendu ce matin déjà, de pouvoir savoir que là, c'est un cocon où on peut être vraiment à la maison, même quand on vient de déménager par exemple. Mais gardez-le même si vous êtes depuis longtemps au même endroit. Vous êtes déjà précieux et important pour tous ceux qui sont dans cette Église, peut-être déjà depuis plus longtemps que vous. Vous aurez un impact parce que le Seigneur aime voir l'enthousiasme de ceux qui savent pourquoi ils ont fait le choix de lui appartenir. Et j'aimerais vous laisser une dernière suggestion que je tire de notre récit. Soyez des enfants de Dieu qui sachent aller vers l'autre, qui regardent autour de soi, non pour contrôler, mais parce qu'ils peuvent apercevoir quand des amis dans l'Église ont besoin d'être soutenus ou secourus. Vous n'êtes pas trop jeune pour avoir une telle attitude. Vous n'êtes pas assez équipé pour. Vous êtes enfant de Dieu, disciple de Jésus, vous êtes baptisé de surcroît maintenant, vous avez tout. Dans l'Église du Seigneur Jésus, chacun de ses enfants a sa place et son rôle. Même si vous avez peut-être l'impression d'être plutôt introverti ou inexpérimenté encore. Peu importe, allez-y. Vous voulez une petite astuce peut-être? C'est juste une proposition. Une fois par semaine, ou par dimanche, comme vous voulez, osez demander une personne dans l'Église comment elle est devenue enfant de Dieu. Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà dit, mais on le fait très rarement, en tout cas chez nous à l'Église. peut-être que c'est mieux chez vous, mais osez le faire. Vous savez peut-être que l'un et l'autre est dans l'église depuis longtemps, assez actif, peut-être pas trop, mais vient tout le temps. Ça doit être un chrétien, ça doit être une chrétienne. Alors, osez aller vers cette personne pour demander comment Dieu a fait avec toi. Et vous allez être surpris parce que ça donne des échanges énormes. Parce que Dieu n'est pas du tout limité. Pour conclure, osez aller au bord de la piscine avec Jésus. Je ne sais pas s'il y en avait à Bethesda, mais Jésus en nous, ça peut ressembler à une fontaine romaine. Vous savez, c'est une où la force vient de la source du Créateur d'en bas, ou bien d'en haut, si on prend le ciel comme ça. Il a envoyé son fils Jésus sur terre pour servir et sauver tous ceux qui sont touchés par son eau vive. Jésus est complètement un avec le Père au ciel, il est Dieu. Et par notre récit de la guérison de ce paralysé, nous pouvons comprendre que Jésus nous voit et nous comprend complètement. Qu'il a le désir profond de nous sauver pour de vrai et qu'il nous lance. Son amour déborde, comme dans cette fontaine, déborde tellement de partout que des vies sont transformées. Je ne sais pas à quel endroit vous vous trouvez, à quel étage de ces ronds autour de la colonne, mais sachez que l'amour de Dieu est là et veut vous remplir et vous faire déborder. Il nous invite à devenir des fontaines romaines qui débordent à notre tour. Et ma petite proposition pour la semaine, encore une, ça serait d'exprimer votre amitié à 4 personnes. Parce que vous avez goûté à cette eau. Parce que vous avez eu cette possibilité, cette grâce de pouvoir le rencontrer. Mais avec des personnes peut-être que vous ne le feriez pas d'emblée. Hein, personne que vous avez peut-être jamais discuté avec, essayez une fois. De leur exprimer votre amitié parce que vous avez été touché par Jésus. Par son prophète Ézéchiel, Dieu a dit, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, ce qui est encore vrai pour aujourd'hui, et je conclue avec ce verset 16 du chapitre 34 d'Ézéchiel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Il parle de brebis. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Parce que les brebis, c'est doux. Amen.